Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Voilà encore un grand projet inutile, coûteux et désastreux écologiquement qui est sur le point de commencer, dont les premiers travaux ont d'ailleurs déjà commencé. C'est le grand projet du Sud-Ouest GPSO qui recouvre des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse et au milieu de nouvelles lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et aussi entre Bordeaux et Dax. Du 11 au 13 octobre prochain, une grande mobilisation contre ce projet aura lieu en Gironde. Ça s'appelle « Freinage d'urgence ». Jusqu'à cette date, on vous fera entendre chaque semaine dans le plat de résistance les arguments et les raisons qui poussent plusieurs collectifs à s'organiser et se mobiliser pour que ce projet ne se réalise pas. Aujourd'hui, on commence avec la rediffusion d'une émission de climat de lutte, l'émission Écolo de la Clé des Ondes, diffusée le jeudi à 19h. Au micro de Sylvie, vous allez entendre Stéphanie Mariette de Stop LGV Bordeaux Métropole et pour les trains du quotidien. Pauline et Marie-Christine de LGV Nina, ni ici ni ailleurs. Michel Lopez et Philippe Gaillard de LGV EA. Une émission diffusée pour la première fois le 1er juin 2023. Et on commence avec Philippe Gaillard.
Alors moi je suis né à Saint-Médard, hein. Donc depuis 2005 que l'on se bat pour justement contre ce projet, moi je suis préposé un petit peu aux panneaux publicitaires, hein, que l'on voit fleurir dans les villages. Voilà, donc j'ai dans mon atelier, mais je suis à la retraite depuis quelques années, donc j'ai de la place et voilà, on est plusieurs à faire les panneaux et parce que bon, il faut bien que quelqu'un les fasse déjà. Voilà, donc là, j'en ai mis pas mal le long de la 113 pour justement préparer cette journée. Mais ça fait quand même un moment que j'essaye de réveiller les Saint-Médardais depuis pas mal d'années même. Mais bon, j'ai l'impression que les gens croient, oh mais non, c'est, ça ne va pas se faire, ça ne va pas passer. Ou alors, du genre défaitiste, ben c'est foutu, quoi, voilà, bon. Non, mais moi, je dis, c'est pas foutu, moi, je continue à me battre, parce que si le village, si ça passe dans le village, c'est quand même plus de passage à niveau. Il n'y a plus de passage à niveau, supprimé. Il parle de faire un passage escalier au bord qui va enjamber le mur anti-bruit, parce qu'il, bon... c'est un mur anti-bruit quand même qui va partir de Saint-Médard jusqu'à Bordeaux ou Villa d'Ornon. Hein, c'est un couloir de 5 mètres de haut. Ça, il faut bien que les gens comprennent que ça va être la catastrophe. Les villages vont être coupés en deux. Voilà. Alors moi, pour avec un peu d'humour, je fais des panneaux Saint-Médard Sud, Saint-Médard Nord que je vais afficher au dernier moment. Le pont SNCF va sauter, ça fait plus d'un an, 18 mois de travaux, rien que ce pont qui traverse Saint-Médard, qui passe sur la voie, il va sauter. Et puis la route d'Aiguemortes qui arrive de Beau-Tiran, la 113 tous les matins, c'est bouché. L'autoroute tous les matins, c'est bouché. À partir de 7h30, on ne peut plus prendre. Donc maintenant, avec les applications, tous les gens passent pour cette route. C'est des centaines de voitures qui passent ici, dans Saint-Médard. Saint-Médard, Cadojac, Bègles, on relie Bordeaux par les derrière. Hein. Il faut le voir pour le croire. Hein. C'est des centaines de voitures.
Et là, tu parles donc de la phase transitoire qui va ajouter donc, à tous les inconvénients de ces aménagements, qui va ajouter la phase travaux, et donc qui finira en 2029 pour Saint-Médard, si j'ai bien vu. Et donc, 8 ans devant nous.
8 ans de travaux dans le village, mais ça va être problématique, parce que bon, les gens qui passent par la 113 et puis vont être bloqués automatiquement, hein, puisque ça se construit jusqu'à Langon de plus en plus. Moi, j'ai connu le village avec 600 habitants. Voilà, 600 habitants, mon grand-père était adjoint au maire. Maintenant, on va arriver à 3500. Et puis tous les petits villages, eh bien, ça explose, et tout le monde va travailler à Bordeaux. Donc la route d'Aiguemortes qui va être déplacée, le pont qui va être déplacé, ensuite il va y avoir une route qui va enjamber la voie au niveau, après Saint-Médard, en direction de Cadoujac.
Le RD214.
Voilà, il y a un saut de mouton qu'ils appellent. Donc, ça va être quand même des travaux qui vont durer des années. Ensuite, à la sortie de Saint-Médard, il va y avoir un viaduc où la voie part vers Toulouse. Là, il va y avoir un viaduc quand même de 400 mètres qui va passer sur les zones humides. Hein. Voilà, ça va enjamber le Socas. Le Socas, c'est une rivière qui arrive, comme son nom l'indique, de Socas, qui passe à la Brède, puis qui se jette à l'île Saint-Georges. C'est un magnifique ruisseau qui va être défiguré, parce que, bon, moi, je connais bien les coins, je suis né là. Je me baignais, quand j'étais gosse, il y a un moulin, c'était magnifique. Enfin, c'est magnifique, donc il faut vraiment que ça ne se fasse pas, parce que là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tous les bois de Thion. Thion, c'est un petit patelin, un petit lieu-dit qui fait partie d'Aigues Mortes. Il y a un groupement de 4-5 maisons. Il y a des gens que je connais très bien. Ils ont les premiers piliers à 70 mètres de leur barrière. Alors, quand on sait qu'un pilier prend 500 mètres carrés d'empattement au sol, voyez un petit peu ce que ça va faire.
Oui.
Voilà. Donc ça va être catastrophique. Ouais, et ensuite, après, bon, Saint-Sève, et puis jusqu'à... Après, c'est Beaulac-Bernos, c'est catastrophique. Surtout que là, au Triangle de la Mort, il y a quand même 8 viaducs qui se... Hein, là, c'est...
Los Angeles.
Voilà, mmh. Los Angeles. Ça va être terrible. Voilà.
Merci Philippe. Est-ce que Pauline, tu veux enchaîner, toi, sur le pourquoi tu es là et pourquoi ce projet te mobilise à ce point ? Pauline, du collectif NINA, LGV NINA.
Ben c'est vrai que depuis un an, un peu plus d'un an qu'on fait des projets avec ce collectif, on essaye de faire du lien avec les collectifs de Gironde, principalement, le collectif de Bordeaux, l'association de Saint-Médard-des-Rangs. Et voilà, on s'était basé sur des promenades après chaque à Bernos-Beaulac. On se disait que quand on amenait les gens vraiment sur les lieux du tracé, ils pouvaient se rendre compte des impacts que ça aurait, que c'était mobilisateur. Voilà, du coup, ça pouvait être aussi festif, un moment qu'on partageait. Ça nous paraissait important, les balades. On avait axé un peu nos actions là-dessus. Mais l'actualité nous rattrape. Et c'est vrai que, voilà, par solidarité... c'est absolument important d'être là à Saint-Médard. Les arrêtés préfectoraux sont tombés chez eux bien avant le reste de la Gironde, quelques mois avant. Donc eux, ils ont déjà des entreprises qui viennent faire des forages, des piquetages, des repérages voilà, pour les plans, les cartes. Imaginez déplacer des réseaux d'eau, imaginez déplacer... Enfin, c'est imminent. Donc on ne peut pas attendre, nous, la vallée du Ciron, chez nous, que ça arrive. Voilà, donc ça nous paraissait voilà, complètement naturel d'être solidaire, parce que c'est vrai qu'on a un désavantage avec le fait que ça soit une ligne et qu'on n'a pas un lieu fixe. Mais en même temps, si tous les gens qui sont concernés, comme le collectif de Bordeaux qui a répondu à l'appel aussi, ou d'autres sur la ligne viennent, ça refait l'union et la force. Et donc voilà, c'était déjà... complètement obligé de venir là.
Et Stéphanie, alors depuis Bordeaux, pourquoi se mobiliser ? Puisqu'à Bordeaux, des infrastructures routières, il n'y a que ça, il n'y a que du béton. Les rivières, on ne les voit plus depuis longtemps, elles sont busées sous les routes et sous les rues. Alors pourquoi depuis Bordeaux, on se mobilise pour ce rassemblement de Saint-Médard-des-Rangs le 3 juin ?
Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi un collectif contre le GPSO à Bordeaux ? Et je pense que le constat, il est surtout déjà des dégâts dans Bordeaux Métropole provoqués par la construction de la LGV Tour Bordeaux. C'est-à-dire que les métropolitains, les Bordelais, ont pu constater, par exemple, l'augmentation du prix de l'immobilier à Bordeaux. Donc on sait, disons qu'il y a beaucoup de personnes déjà dans Bordeaux qui ont vécu ou qui vivent ce que peut produire au sein des métropoles le fait d'avoir ces LGV en fait qui relient les métropoles entre elles et qui vont accroître en fait les constructions immobilières, l'activité économique au sein des métropoles, mais en faisant finalement une espèce de surconcentration d'habitants dans des endroits comme Euratlantique. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis le deuxième constat, pourquoi aussi se mobiliser contre cette LGV, c'est aussi un constat sur le fait que l'argent qui va être consacré à cette LGV, donc c'est 14 milliards pour le projet GPSO, 1 milliard pour les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux. Finalement, cet argent, on pourrait aussi penser à le dépenser différemment, c'est-à-dire notamment pour nous, ce qu'on, enfin, une des choses qui nous motivent, ce sont les trains du quotidien. Donc, comment consacrer l'argent pour améliorer les transports collectifs au niveau de Bordeaux Métropole et peut-être plus largement au niveau du département ou de la Nouvelle-Aquitaine. Et là, en fait, ce qui nous intéresse au sein du collectif, et c'est pour ça qu'on sera présent aussi à Saint-Médard le 3 juin, c'est en fait de décortiquer tout le discours des pro-LGV qui mélange en fait LGV, GPSO et train du quotidien. Alors j'en veux pour preuve que dans le dernier magazine journal d'information de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un numéro qui est consacré d'ailleurs au transport, avec un dossier transport. Ce qui est écrit, c'est que le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, dans son ensemble, permettra d'améliorer les temps de parcours, mais surtout de libérer de la capacité sur la ligne existante en reportant les circulations des TGV sur la ligne nouvelle pour augmenter significativement la circulation des trains du quotidien et des frettes. Donc ça, c'est les arguments donnés par les pro-LGV. Donc ce qu'on peut essayer de regarder, si c'est vrai. En fait, ce qui va se passer au niveau des AFSB, c'est la construction d'une troisième voie sur ce que tu disais tout à l'heure, entre le kilomètre 2 et le kilomètre 14. Et donc, la troisième voie, les pro-LGV prétendent que ça va permettre de fluidifier le trafic des RER-TER et d'augmenter le cadencement. Dans le détail, quand on regarde, c'est pas vrai. C'est-à-dire que cette troisième voie, elle va surtout servir au fait de dégager deux voies. Donc on va avoir trois voies, quatre voies au niveau des gares, et on va avoir deux voies qui vont être consacrées à la circulation de la LGV, enfin des TGV de la LGV qui partiront donc vers le sud, à Bernouze-Beaulac. Et donc pour ce qui nous paraît être plutôt les trains du quotidien, même si on peut considérer que peut-être pour une partie de la population, les LGV, c'est peut-être les trains du quotidien, mais c'est une infime partie de la population. Mais pour toute une partie des utilisateurs, par exemple de Bordeaux-Langon, en fait, ces travaux vont plutôt s'accompagner d'une augmentation du temps de parcours et notamment d'un temps de parcours allongé justement sur cette partie AFSB, du fait que sur cette troisième voie, les trains ne pourront... On ne pourra pas faire de trains qui se croisent. Enfin, ça paraît logique. Si on a trois voies et deux voies consacrées au LGV, il n'y en a plus qu'une.
Claire, le TER roulera sur une seule voie à sens unique et donc sera un omnibus qui roulera de Bordeaux à Langon en s'arrêtant dans les gares pour croiser celui qui arrive en sens inverse.
Voilà, c'est ça le point majeur. Donc après, la question qu'on peut vraiment se poser, c'est ce que je disais, c'est... Est-ce que donc 1 milliard pour faire tous ces travaux, est-ce que tout cet argent finalement peut pas être mieux dépensé pour améliorer les transports pour beaucoup plus de personnes que les personnes qui empruntent des trains de manière très rapide entre deux métropoles? Ça, c'est la question centrale et je pense que c'est un...
Encore un train ? Il y a deux discussions qui s'enchevêtent, celle sur les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, celle sur la ligne Bordeaux-Toulouse. Il y a, je crois, 117 passages à niveau à supprimer, et ce qui paraît donc impensable à faire en trois coups de cuillère à peau, effectivement, parce que supprimer des passages à niveau, ça veut dire trouver d'autres formes de croisement des différentes voies. La ligne LGV Bordeaux-Toulouse pose un certain nombre de problèmes, puisque c'est une nouvelle ligne avec une nouvelle emprise pour entièrement dédier la vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Tandis que les AFSB, les aménagements ferroviaires, ont été présentés comme une amélioration au train du quotidien. D'ailleurs, je me souviens, j'ai participé à la consultation pour le RER métropolitain. Ces AFSB étaient présentés comme une pièce très importante du projet d'amélioration des trains du quotidien et du RER métropolitain. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que si ces travaux donc, qui sont proposés, certains supprime des passages à niveau, donc améliore la sécurité. Une partie de ces travaux ne sont peut-être pas discutables. D'autres travaux ont été refusés et écartés, comme celui d'aménager la gare de Beautiran. Et là, j'ai la réponse que M. Barsac a faite à Loïc Prudhomme. Il lui a dit non, c'est pas rentable, on a étudié la question. Et Loïc Prudhomme a demandé, est-ce que je peux avoir l'étude? Ben non, il n'y avait pas d'étude, il ne peut pas avoir l'étude. Donc il semble bien qu'il y ait des réponses toutes faites qui soient données. Mais, et donc, quelle est la position de vos collectifs par rapport à ces différents travaux? Est-ce que vous triez là-dedans? Est-ce que vous demandez une remise à plat totale?
Dans tout ce qu'on dit autour de ces transports, au-delà des aménagements, etc., je pense que la question globale qui est posée aujourd'hui et à laquelle notre collectif aussi tente de réfléchir, c'est les transports, c'est pour aller d'où à où, pour faire quoi, pour transporter qui, pour transporter quoi. Et je pense que cette question des transports, il faut vraiment la replacer dans le contexte très global. Alors moi, je suis scientifique, donc cette question, elle me tient à cœur, de la crise climatique et de la crise écologique. Donc il a été question au tout début des dégâts irrémédiables, et je suis d'accord avec Philippe des zones humides hein, qui commencent dès Saint-Médard-des-Rangs, parce qu'on est déjà dans une zone Natura 2000 à Saint-Médard, et ces dégâts se poursuivent tout au long de la ligne, comme l'a dit Pauline. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit que ce type de projet d'artificialisation des sols avec des structures gigantesques en béton, leur impact écologique devrait apparaître pour tout le monde comme inacceptable, étant donné la crise de la biodiversité dans laquelle on se trouve. Et la deuxième grande question qu'on doit se poser hein, autour de ces transports, c'est la question de l'impact climatique global. Et donc, ce projet GPSO, il a été évalué par les promoteurs à 2,4 millions de tonnes équivalent carbone, quasiment deux fois plus, en fait, par deux études, par les opposants, donc autour de 4 millions de tonnes. Et il faut replacer ça, en fait, dans les objectifs qui ont été annoncés tout récemment par la Première ministre Elisabeth Borne dans son nouveau plan climat. Donc elle veut passer, on est en ce moment, enfin en 2022, pour la France en émissions directes, on est à plus de 400 millions de tonnes équivalent carbone. Et elle veut descendre ça, selon les objectifs de l'Europe, à 270 millions de tonnes pour 2030. 2030, c'est demain. Donc quand on ramène le projet GPSO à cet objectif, en fait, on est entre 1 et 2% de notre objectif à 2030. Alors pour les auditeurs, ça parle peut-être pas beaucoup, 1 à 2%, mais en fait c'est énorme. Parce qu'en fait, cet objectif, c'est pour la France entière, c'est-à-dire l'État, les ménages et les entreprises. Donc quand on regarde quantitativement ce que ça représente, ce projet, il est totalement hors les clous de nos engagements en tant que nation au niveau de l'Europe, que l'engagement même du gouvernement, enfin les propres engagements du gouvernement qui supportent ce projet, ils sont en dehors de leurs propres engagements. Donc pour nous, en tant que collectif de Borno Métropole, ça nous paraît important de regarder tout ça globalement et de bien avoir tous ces chiffres en tête et tous ces problèmes en tête. Et c'est pour ça que notre collectif... pour les métropolitains, on n'est pas directement sur le tracé, donc nos maisons ne sont pas sur le tracé, on n'est pas riverains. Mais,
Par contre, on paye.
Et c'est pour ça qu'on a souhaité porter... ce qui nous motive, c'est de contrer le projet en termes de contre-lobbying au niveau de l'Europe. Et ça, c'est une des actions qu'on a entreprises, dont il sera question au cours des prochaines semaines.
Alors, Pauline et Marie-Christine du collectif Nina, je lisais il n'y a pas longtemps sur la page Facebook, je ne sais pas si c'est de votre collectif ou de celui de Bordeaux, un commentaire narquois de quelqu'un qui disait, je ne sais pas pourquoi les écolos, quand on parle de faire des trains supplémentaires, ils sont contre. Alors voilà, est-ce que vous êtes contre le train ?
On n'est absolument pas contre le train. On est contre la ligne à grande vitesse. Mais au contraire, habitant dans la région de Langon, des trains, on en veut plus, les trains du quotidien. On parlait de globalité tout à l'heure. Il faut tout de même rappeler que les TGV, seulement 8% de l'ensemble des utilisateurs de trains prennent le TGV. Donc ça ne concerne que 8% de cette population. Là, on est, si on parle de globalité, si on parle de collectif, ça, on ne sert qu'une très infime partie de la population. Et c'est l'ensemble de la population qui, elle, va financer ce projet parce que il y a cette taxe, mais de toute façon, le budget qui va être imparti à ce projet, c'est le budget, sont nos impôts. C'est nous qui allons la payer, cette LGV, même s'il y a une partie de l'État, même s'il y aurait un financement de l'Europe. Ça, il faut pas l'oublier. Et c'est vrai que le côté... il faut réfléchir. De toute façon, maintenant, on ne peut plus réfléchir chacun dans son coin. On doit réfléchir d'un point de vue global. Et là, par rapport à ces émissions de carbone, on est tout à fait d'accord. Par rapport à la biodiversité, tout ça nous semble effectivement des points qui sont importants à réfléchir, mais de manière globale et pas chacun dans son coin.
Moi, je voulais juste rajouter qu'il y a 15 ans, j'ai retrouvé les premiers tracts qui a été fait contre la LGV. Il y avait une face qui était contre la LGV et une face qui était pour les trains du quotidien. Mais force est de constater que pendant 15 ans, il n'y a pas eu de grand plan d'amélioration des trains du quotidien. Moi, j'écoute souvent les émissions de radio sur ce sujet, sur différents... Voilà, j'essaie de m'informer. Franchement, à part il y a 2-3 mois où on a vu train du quotidien sur les annonces du... C'était le COI ou un truc comme ça. Voilà. D'un seul coup, on a inventé les trains du quotidien il y a 3 mois. Donc, non seulement on n'est pas contre les trains, mais il y a 15 ans, on disait déjà, comme dit Philippe, qu'on ne pouvait plus rentrer dans les métropoles ni en sortir le matin ou pour aller travailler ou en rentrer chez soi. Donc, c'est gravissime ce qui nous arrive. C'est qu'on nous impose un projet dépassé, qui a été fait dans des cerveaux il y a 30 ans, avec des considérations climatiques, environnementales, sociologiques, qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc on répond aux problèmes de mobilité sur... Là, si on regarde sur la Gironde, on n'a pas besoin de prendre des TGV pour se déplacer tous les jours, les Girondins, ni les Lot-et-Garonnais, en l'occurrence. En gardant à l'esprit que c'était des projets novateurs... j'ai l'impression qu'on a pris un retard dingue sur les trains du quotidien. J'avais entendu des annonces en Allemagne, en Espagne, enfin, rien ne se passait. L'été dernier, il y a eu des annonces dans toute l'Europe. Qu'on attende 3 mois pour découvrir qu'on avait des lignes qui n'étaient pas entretenues et des gens qui voulaient prendre le train le matin pour plus prendre leur voiture et de toute façon, ils ne pouvaient même plus la prendre parce que c'était bouché. Donc, je trouve que c'est vraiment la double peine. On a à se justifier de ne pas être contre le train, mais tu le fais très bien, parce que c'est exactement la question qu'on pose tout le temps. Alors qu'en fait, on est complètement pour des trains, et, sauf qu'on nous ment. Il y a un gros problème, c'est que tout est faux dans ce dossier, quoi. Stéphanie, tu prenais l'article qui est paru dans la Gazette de la Région, là. Tout est faux quand M. Rousset dit que ça va mettre du fret sur le... que ça va empêcher les murs de camions, c'est faux. Quand on vous dit que les lignes sont saturées, c'est faux. Enfin, tout ce qu'on nous dit, c'est faux. Donc au bout d'un moment, là, je pense que le temps des argumentaires est passé. Il y a une mobilisation, c'est le plus gros projet BTP des 10 prochaines années en France. On parle des bassines, on parle d'autoroute Castres-Toulouse. Du fait que ça soit un train, il y a une omerta, un truc qui se fait que, bon, ben voilà, on ne peut pas être contre le train, c'est le progrès. Mais le progrès d'il y a 30 ans avec le train, c'était de la vitesse et d'aller de métropole en métropole. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout les préoccupations et c'est gravissime. Et quand on tombe dans l'Aquitaine, le pays de l'eau, ben c'est encore, ça saute encore une fois aux yeux avec les étés de sécheresse, le feu qu'on a eu l'année dernière dans toute la région. Comment peut-on penser qu'on va rouler avec des chenillards pendant 10 ans sur des sources qui jaillissent et qui qui nourrissent nos territoires. Je ne comprends pas. On a 2 degrés de moins dans la vallée du Siron avec des vieilles forêts anciennes et cette eau présente. On a un patrimoine aux portes de Bordeaux qui pourrait arriver à faire des choses dans les années futures. Et là, on nous sort un vieux truc tout vilain, tout naze d'il y a 30 ans. Et ça s'entête. Politiquement, ça devient violent. Et quand Jacqueline Lartigue, la maire de Bernos, les gendarmes l'interviewaient, vous n'avez pas peur de mouvements, de population et tout, elle dit non, moi ce qui me fait peur, c'est les travaux. Donc on soit bien d'accord, ce qui est de grave, c'est que on puisse imaginer que ça ait lieu. Et on n'a pas montré un collectif pour laisser passer le train, comme dit Richard, et on a trouvé des acolytes qui sont pareils, on n'est pas là pour regarder passer le train. Donc on ne lâchera rien, ni à Saint-Médard-des-Rangs, ni à Bordeaux. Et la communication, c'est un temps maintenant. Le 3, c'est aussi un temps de rassemblement. Symboliquement, c'est super fort d'être là, à marcher dans un centre-ville, aller le long des voies jusqu'à cette zone humide. C'est pour se donner la force de faire d'autres manifestations plus tard, de jamais lâcher l'affaire, parce qu'on marche sur la tête et c'est grave.
Merci Pauline pour ce cri du cœur. Philippe, LGVEA.
Notre président de la République, en 2017, avait dit « Les grands projets, c'est fini ». Je m'en rappelle très bien parce que nous, on avait dit « Yes ». Et c'est justement à cause de ça, un petit peu, qu'à Saint-Médard, les gens se sont sentis moins motivés. Ils se sont dit « Oh, ben ça y est, ça ne va pas se faire ». Et coucou, en 2021 ou 2020, le projet est ressorti avec... l'ancien Premier ministre, hein, Jean Castex, voilà. Donc c'est lui qui a remis ça un petit peu sur la table. Parce qu'il ne faut pas oublier que si ça se fait, mais c'est catastrophique, c'est 54 millions de mètres cubes de déplacés, de gravats, de terre.
Il y aura plus de 60 ans avant de récupérer le bilan carbone du GPSO. Mais pour revenir aux histoires, je dirais, qui sont le nerf de la guerre de cette opération, l'aspect financier... pourquoi les Parisiens ne mettent pas leur écho? Pourquoi il n'y a que les gens qui habitent à moins de 60 minutes d'une gare TGV qui vont payer cette fameuse TSE taxe?
Pourquoi il y a des gens qui payent en France, qu'ils soient Parisiens ou ailleurs, c'est pas la question. C'est pourquoi une heure du trajet? Et puis quand ça n'a pas suffi d'à une heure du trajet, on a rajouté des taxes de séjour, même pour les vacanciers. Et j'ai vu un calcul pour une famille de 4 personnes. Imaginez une famille qui arrive en vélo, qui fait de l'écotourisme et qui va au camping à la ferme, devrait payer 64 euros pour passer une semaine, rien que de taxes pour une LGV qu'il n'empruntera pas. Donc ça veut bien dire... qu'il n'y a pas le financement, qu'on est en train de racler tous les fonds de tiroir. C'est vrai que nous, quand ça s'est réveillé, tout s'est réveillé en même temps que les sous. Hein. Quand ça s'est réveillé, il y a eu des collectivités territoriales qui ont été rackettées avec des pressions, qu'il fallait, ils se sont engagés en payant, en signant, on dit un chèque en blanc parce qu'ils n'ont pas tous signé le même budget. C'est sur 40 ans avec l'inflation. Enfin, personne, et on ne l'a pas encore rappelé, les lignes LGV sont déficitaires depuis le départ. Qui, dans un temps de crise, investit dans un modèle dépassé depuis 2014. Voilà. Sauf que, bon, ben voilà, ça, on le sait. Les gens qui ne le savent pas, il faut continuer à leur expliquer. Mais il faudrait qu'il y ait plus d'émissions comme la tienne, Sylvie, sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'en national, à chaque fois qu'il y a des sujets transport, on a l'impression que ce sujet n'existe pas. Il y a des autoroutes, il y a des voies qui ferment. Mais alors, le GPSO, j'entends jamais parler. Mais c'est vrai que c'est complètement le budget. Mais on voit bien que du coup, que c'est qu'une histoire de lobbying et de lancer le projet. On s'en fout, en fait, en vrai, si on arrive à Toulouse ou à Mont-de-Marsan ou à Bayonne plus tard. Pour l'instant, la SNCF, elle fait ses trucs. Les succursales travaillent. Ils sont payés. Les gens qui sont venus faire les carottages sur votre commune, ils ont été payés. Donc on se fout de la finalité et de l'aspect global. Et puis là, c'est du bricolage qu'on va chercher dans des sous, dans les poches de gens. On voit bien un petit peu quand même un vent de panique pour financer ça en ce moment.
Merci à Stéphanie, Mariette de Stop LGV Bordeaux Métropole et pour les trains du quotidien, Pauline et Marie-Christine de LGV Nina, ni ici ni ailleurs, Michel Lopez et Philippe Gaillard de LGVEA et surtout merci à Sylvie qui a réalisé cette émission pour Climat de lutte diffusée la première fois le 1er juin 2023. Je rappelle que la mobilisation freinage d'urgence contre les LGV aura lieu du 11 au 13 octobre en Gironde. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre le site lgvnonmerci.fr ou vous rendre aux nombreuses réunions d'information sur le sujet dans toute la région. Il y en a ce soir à Rochefort dans le 17 et à Auch dans le Gers. Demain soir dans le Pays Basque, vendredi à Toulouse ou encore lundi prochain à Pessac à l'université Bordeaux-Montaigne.